Château Arnoux, Saint-Auban, toute une histoire pour la cité ouvrière. La cité ouvrière de Saint-Auban est née avec l'usine de Péchinet, installée en bordure de la Durance au début du XXe siècle. Son histoire est étroitement liée à celle de l'usine. La cité se présente comme une zone résidentielle, verdoyante et aérée. Retour sur l'histoire de la cité de Saint-Auban et de son usine, avec un amoureux de son village et passionné de son histoire, René Galvez, sur Fréquence Mistral.
Alors, je suis René Galvez, je suis retraité de cette usine où j'ai travaillé pendant 41 ans. Cette cité de Saint-Auban à laquelle nous sommes très attachés parce que c'est un lieu qui est absolument chargé d'histoire pour toute une population et bientôt maintenant la quatrième génération des gens qui sont arrivés ici venant de 23 pays différents qui ont fait Saint-Auban, qui ont fait cette usine, qui l'ont fait progresser à travers plus de 100 ans. Et si tu le permets, je vais revenir au départ. Pour chasser d'abord une idée, c'est qu'on croit souvent que cette usine est née à cause de la guerre de 14-18 pour faire des gaz de combat. C'est partiellement faux. Il existait des projets d'installation industrielle ici depuis 1907. Et pour les comprendre, il faut faire connaissance avec M. Henri Merle, qui avait créé en 1855 à Salindres une société qui va prospérer, la société Alès et Camargue, qui deviendra en 1877 la société Alès et Camargue Compagnie Péchinet, parce qu'il s'était adjoint M. Alfred Rangaud, dit Péchinet, comme coadjuteur. Et c'est lui qui va faire un peu connaître le nom de cette société dans le monde, bien que ce soit un personnage qui est un peu réactionnaire et qui n'a pas favorisé le progrès, ni technique, puisqu'il ne croyait pas à l'électricité, ni à l'aluminium.
Alors là, René, on est en quelle année, là, à peu près ?
On est en 1877, et il n'était pas non plus très versé dans le social, puisqu'il était contre les retraites des ouvriers. Le triangle, c'est électricité, aluminium. Pour compléter ce triangle, il faut de la bauxite pour faire de l'alumine et de l'aluminium. Et il faut du sel, parce que pour accéder à tout ça, il faut de la soude. Pour faire de la soude, il faut du sel, qui va nous permettre de faire de la soude pour attaquer la bauxite, faire de l'alumine, puis de l'aluminium par électrolyse. Et tout ça, c'est un complexe chimique né qui va être versé là-dedans. Mais ça met du temps, et le projet est rattrapé par la guerre. La vallée de la Durance est en cours d'électrification depuis longtemps. Ce lieu est repérable facilement, parce qu'il est loin de tout. On peut y faire des activités dangereuses. Il a une gare qui remonte à 1873 sur la compagnie Paris-Lyon à la Méditerranée. Cette gare de Saint-Auban est un axe très très important puisqu'elle dessert la ligne Avignon-Digne, qui n'existe plus forcément, Chris, et puis la ligne Marseille-Briançon, qui est aussi toute nouvelle et qui a été tracée à la fin du Second Empire. Le dernier atout de ce lieu, c'est qu'il est traversé, depuis la fin du 19e siècle, par un canal, le canal de Manosque, qui a sa prise à Château-Arnoux dans la Durance et qui se jette à Manosque. C'est un canal d'arrosage. Beaucoup de personnes, prises par la folie de la fée électricité, se disent « mais si on l'agrandissait un peu, on pourrait faire de l'électricité ». Et notamment, il y a beaucoup de projets, mais il y en a un qui va surnager, il s'appelle le projet Meurs. Vers les années 1900-1905, c'est un juge à la retraite à Nice qui a ce projet fou et il installe une petite société à Péruy, le projet Meurs. Alès et Camargue va acheter ce projet Meurs tout simplement et s'installer à Péruy pour son projet. Et c'est pour ça que c'est une curiosité, mais le premier téléphone de l'usine de Saint-Auban, c'était le numéro 3 à Péruy. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette particularité. D'ailleurs, Péruy servira aussi, d'ailleurs, dès qu'on va démarrer des travaux ici, à loger des ouvriers. Parce qu'à Péruy, il y a plus de 100 ans, il y avait de la sériciculture. Les vers à soie étaient abondants. Alors après, on va arriver au déclenchement. Il faut passer par le déclenchement de la guerre de 14-18. La guerre de 14-18 va tout bousculer. En mars 1915, les Allemands lancent la première attaque au gaz dans la région de la ville belge de Ypres pour essayer de franchir l'Isère, qui est le dernier verrou du front occidental. Si cette ligne s'écroule, tous les ports de la mer du Nord sont accessibles à l'armée allemande et la guerre est perdue. Et les Allemands, pour faire sauter ça, utilisent de l'hypérite. Et donc, l'armée française se retourne vers le gouvernement et dit « on ne peut pas lutter, il nous faut la même chose ». Parce que sinon, on est mort. Et le secrétariat d'État à l'armement ordonne à 10 industriels en France de fabriquer chacun 10 tonnes de chlore par jour pour les livrer aux unités d'État qui fabriquent les bombes, les armements, les poudres explosifs. Adrien Baden dit immédiatement, eh bien ce sera à Saint-Auban. À Saint-Auban, il n'y a rien. Et il va donner des ordres, on va construire une usine de guerre en 300 jours. Et là, des gens vont venir du monde entier. Les gens qui reviennent du front, des étrangers qui viennent de partout, des Africains, des coloniaux français et beaucoup de prisonniers allemands qui vont d'ailleurs traîner les pieds et prendront des coups de bâton parce qu'ils refusent de fabriquer du chlore pour tuer leurs frères. Alors, comme il y avait un peu d'humanité à cette époque, on les mettra au plateau de Saint-Auban où ils vont construire de belles villas en pierre. J'en habite une dont je suis fort satisfait d'ailleurs. Et donc, en 1917 et 1918, ils vont construire, tous ces ouvriers allemands, de jolies maisons de cadres sur l'avenue Alsace-Lorraine qui est pile ici en face de l'usine. Et en même temps, la société des maisons moulées qui a construit un véritable petit village à Salindres, construit toutes les rues de Saint-Auban où tu as des maisons moulées. Elles sont faciles à identifier quand on les regarde. Elles ont un bandeau sous le toit. Parce qu'au départ, ce bandeau, en fait, c'était représenté par un cube. On l'appelait les maisons moulées. Elles étaient faites en 3 jours. Et elles étaient posées par terre, sans vide sanitaire, sans rien. Mais n'empêche qu'on va pouvoir loger comme ça un millier de personnes très rapidement, voire même à commencer à faire venir des familles. Voilà, donc ça, c'est la période de la guerre. Pendant cette période, Saint-Auban s'installe avec ses maisons moulées.
Et sur un plan orthogonal, il fallait prendre en compte le vent, le mistral, le soleil. Il n'y avait pas de fondation ni d'isolation à ces maisons.
Non, il n'y a rien du tout. Il n'y avait pas d'eau non plus. Bien sûr, il fallait aller chercher l'eau dans un puits qui était au nord de Saint-Auban. Il n'y avait rien du tout. C'était vraiment fait à la va-vite, mais ça a rendu d'énormes services. Et quand on regarde ce que les Saint-Aubanais ont fait depuis 30 ans qu'ils sont devenus propriétaires de leur maison, il y a des endroits ils ont fait de véritables petits bijoux avec ce truc qui ressemblait à rien au départ. Jusqu'à la fin des années 70, Saint-Auban était une zone totalement privée. Quand on est poursuivi par les gendarmes, on se réfugie à Saint-Auban parce qu'ils ne nous poursuivent pas. Bon, après, ça va changer, il ne faut pas rêver. Ils avaient compris la combine. Mais quand on était poursuivi, parce qu'on devait faire une bêtise, des fois, hop, il fallait se réfugier à Saint-Auban. Il y avait même des gens qui envoyaient la marche rez-de-chaussée dire « Vous n'avez rien à faire ici, vous n'avez pas le droit de pénétrer sur ce territoire. » d'un territoire privé. Voilà, mais après la guerre de 14, donc, cette usine s'est développée autour du chlore. C'est surtout les solvants chlorés, un en particulier qui s'appelle le chlorure de vinyle monomère, qui sert à fabriquer le PVC. C'est là qu'il y a eu les grands développements. Lequel PVC a démarré pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous observation allemande. Et après, bon, aujourd'hui, c'est le fleuron qu'on voit d'ici, d'ailleurs. On voit les réacteurs, on les voit d'ici. C'est un PVC de réputation mondiale qui est fabriqué à Saint-Auban, qui est utilisé par les transformateurs les plus exigeants.
René, vous le disiez, hein, expansion sur le site même. Et puis au niveau des employés, on va jusqu'à plus de 2000 employés en fonction, avec de 2000 ouvriers qui sont là sur le site.
On a dépassé même les 2500. Le maximum d'employés de l'usine, c'est après Péchiné-Saint-Gobain, c'est 2270 personnes. Mais à l'époque, il y avait 250 sous-traitants au minimum. Mais en gros, ça a appartenu à Saint-Gobain, au groupe Elf, qui l'a cédé, contraint et forcé, au groupe Total. Le groupe Total, lui, s'en est débarrassé, a plus voulu de cette chimie, a trouvé des indépendants pour continuer à gérer cette chimie.
René Galvez, on est sur le plateau, là, en dessus donc, de l'usine. Vous avez passé votre vie à l'intérieur de cette usine. Vous l'aimez passionnément également. Vous avez donné beaucoup pour elle. Quelle impression ça vous fait aujourd'hui de la regarder avec ce point un peu en hauteur, peut-être, et avec le recul du passé?
Comme cette décroissance s'est opérée dans le temps, elle n'a pas été extrêmement brutale. Il faut mettre de côté les chocs de 2005, par exemple, où là, ça tombait dur. Hein. 600, 700 personnes parties rapidement. Il n'y a jamais eu aucun licenciement, d'ailleurs. Hein. Ça s'est toujours réglé autrement. Bon, je pense que les gens de Saint-Auban, on est resté attaché à cette usine. Pas uniquement à cause de nous. C'est que souvent, on avait nos parents ou nos grands-parents même qui ont travaillé. Personnellement, moi, j'ai un grand-père italien qui a fui la montée du fascisme dès le début et qui est venu se réfugier ici où il a fait sa vie. Du jour où on est rentré là, on est resté toute notre vie. C'est ça qui était nouveau. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'était de véritables dynasties qu'il y avait, y compris d'ailleurs d'étrangers. Des familles d'Ukrainiens, de Polonais, de Russes, de Portugais, d'Espagnols, des Kabyles. Ils en sont à leur 4e génération ici. Le mot de la fin, il reste une commune qui est encore debout, c'est Châteauneuf-Saint-Auban. Elle peut encore compter sur Saint-Auban et sur son usine. Ça reste quand même le plus grand employeur de ce territoire, même si ce n'est plus une des plus grandes usines de la province. Elle est toujours là, elle pourra continuer, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est remarquable. Par rapport à l'industrie chimique, ça n'existe pas partout, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une population qui accepte parfaitement la présence de cette usine, même si elle présente des dangers, parce qu'elle sait qu'elle a contribué largement à la prospérité de toute une région. Voilà.
C'était René Galvez au micro de Chris Alessandri.